Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur comment garder son cœur pur dans Proverbes chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. On sait que le cœur humain est capable du meilleur comme du pire. C'est d'ailleurs un sujet d'étude permanent, puisqu'il y a toutes sortes de professions qui se sont greffées autour de l'être intérieur, comme les psychologues, les psychiatres. Ils étudient les fonctionnements, l'âme, les raisonnements. Et ainsi, dans notre cœur, on se rend compte qu'il y a des choses qui n'appartiennent qu'à chacun. Et vraiment, qui peut sonder un cœur si ce n'est Dieu ? Et Dieu, devant Dieu, tout est à nu et à découvert. David l'a exprimé dans le psaume 139 lorsqu'il a dit au Seigneur éternel, « Tu me sondes et tu me connais ». Il n'y a que Dieu qui nous connaît entièrement et parfaitement, mais notre cœur est à nu et à découvert devant lui. Alors, que représente le cœur dans la Bible ? Parce que chacun peut-être a une notion différente de ce qu'est le cœur. Le cœur dans la Bible, ça représente d'abord l'homme intérieur. Quand on parle du cœur, c'est l'âme, c'est l'être intérieur. Et particulièrement ce qui contrôle la volonté, la pensée ou les émotions. Jésus a parlé du cœur comme une grande source de péché. On peut lire Matthieu 15, 19. Et c'est là où on voit que ce cœur, en permanence, il génère des pensées, des péchés, toutes sortes de péchés. Car il dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ainsi, notre cœur est comme une petite usine qui va constamment produire toutes sortes de mauvaises choses, ici en tout cas des pensées mauvaises, des idées de meurtre, de violence, du vol, de la convoitise. D'ailleurs, quand Jésus parle du péché d'adultère, il dit, mais je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il revient sur le cœur qui est la source du péché. Donc le péché va être conçu dans le cœur. Si nous entretenons ce péché, il va engendrer le mal, la faute, et ça va nous éloigner de Dieu. Alors David nous donne un conseil précieux de ce que nous devons faire pour assainir notre cœur. Dans le psaume 37, verset 30, « La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur et ses pas ne chancellent point. » Ça, c'est un verset important pour nous aider à purifier, nettoyer notre cœur régulièrement. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, donc la loi de Dieu, c'est la parole de Dieu, quand elle vient dans votre cœur, elle est en train de le nettoyer. Et on se rend compte que notre cœur a besoin d'être nettoyé tous les jours. C'est pourquoi je vous encourage à lire la parole de Dieu tous les jours, afin que cette eau de la parole purifie votre cœur tous les jours. En tout cas, c'est comme ça que David le dit, la loi de son Dieu est dans son cœur. Plus cette parole va inonder notre cœur, plus elle va le purifier. Alors Dieu nous demande de garder notre cœur. J'ai regardé d'autres versions, toujours de Proverbes chapitre 4. Et le verset 23, il est traduit dans la version Semeur, « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur. » Donc nous devons y être attentifs, prendre des mesures et faire ce qui est nécessaire pour que ce cœur ne génère pas sans cesse des mauvaises choses. Il y a quelque chose à faire, il faut y veiller soigneusement. Et puis, la version Mardesous dit, « Garde ton cœur de tout ce dont il faut le garder. » Il faut le garder, il faut agir. Donc, il ne faut pas laisser les choses s'installer. Il ne faut pas laisser ce cœur développer ses pensées par lui-même, ses péchés, les entretenir, mais il faut le garder, le cultiver et le nettoyer. Alors, on va voir de quoi nous devons le garder et quels sont les dangers. Premier exemple se trouve dans 2 Samuel 14, verset 25. Il nous faut garder notre cœur de l'orgueil. Proverbe, plutôt 2 Samuel, chapitre 14, verset 25. C'est l'exemple ici d'Absalom, un des fils de David. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Il n'y avait point en lui de défaut. Voilà déjà une première caractéristique d'Absalom qui est remarqué pour son physique, pour sa beauté extraordinaire et sa chevelure aussi, dont il est fait mention ailleurs. Et puis, on va lire au chapitre 15 et au verset 1er. Voilà maintenant cet homme qui a des qualités, qui est apprécié pour sa beauté, mais on va voir comment l'orgueil va s'infiltrer dans son cœur au chapitre 15 et au verset 1. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu ? » Lorsqu'il avait répondu « Je suis de telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait « Qui m'établira juge dans le pays ? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi, et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Absalom, on connaît bien son histoire tragique. Absalom en français, vous savez que chaque mot hébreu a une signification en français. Absalom, ça signifie le père de la paix. Le père de la paix, et pourtant, il a apporté les conflits, il a apporté la guerre, il a apporté les difficultés dans sa propre famille. Relation conflictuelle avec son père, tout d'abord, parce qu'il voulait être roi à la place de son père. Donc, même s'il avait des qualités dont on a mentionné, comme son physique et son succès auprès des gens ici, lui qui soignait beaucoup son apparence, en fait, l'orgueil était venu dans son cœur. Il voulait être le roi à la place de son père, alors que ce n'était pas à lui d'être le roi et ce n'était pas le temps. Et ainsi, déjà, une première leçon, c'est que l'orgueil nous pousse toujours à vouloir une place qui n'est pas la nôtre. L'orgueil va nous faire désirer ce qui n'est pas pour nous. Ce n'était pas pour Absalom, ce n'était pas sa place. Si on regarde l'origine du péché, le péché n'a pas commencé avec Adam et Ève sur terre, il a commencé au ciel. Et quand on connaît l'origine du péché, c'est Lucifer, un des anges de lumière. En fait, on l'appelle l'ange de lumière, un chérubin protecteur. Il était glorieux, un des anges les plus élevés, le plus élevé dans la création. Et il a eu la pensée de se faire l'égal de Dieu. En fait, l'orgueil est venu dans son cœur et il a voulu se faire l'égal de Dieu. Et c'est bien là le premier péché qui est arrivé dans l'histoire. Avant même le péché d'Adam et Ève, c'est cet ange de lumière qui, par orgueil, a voulu se faire l'égal de Dieu. C'est pourquoi il va toujours pousser les gens à l'orgueil. Et nous devons, nous, chrétiens, veiller à ne pas laisser cet orgueil qui vient du malin venir dans notre vie. Absalom donc était impatient. Il était impatient, il se procure ici des chars et des chevaux. Il y a 50 hommes qui courent devant lui, vous voyez un petit peu l'orgueil, la démesure. Tout ça pour montrer sa puissance, sa gloire. Il ne veut pas attendre avant de régner, il veut déjà être promu. Et si vous êtes impatient, c'est très certain que vous allez prendre le mauvais chemin. Il n'y a pas de raccourci avec Dieu, il faut attendre le temps de Dieu, il faut rester humble. Et à un moment donné, Dieu nous élève. Mais quand vous voulez devancer, comme Absalom, vous voulez régner plus vite, ou alors que ce n'est pas votre place, eh bien vous allez, par impatience, prendre des chemins qui vont vous éloigner de Dieu. Alors en apparence, Absalom est très bon parce qu'il écoute les gens, il se met à la porte, il écoute leurs doléances, les prend en considération, mais en réalité, on voit bien qu'il a un plan dans son cœur qui n'est pas très net. Il séduit le peuple parce qu'il a des intentions pour lui-même, pour se projeter en avant. Il arrive à le séduire par des paroles. Le peuple est sensible aux paroles. Et frères et sœurs, nous devons faire attention aux séducteurs. Parce que certains chrétiens sont très émotionnels et se laissent séduire par des paroles, des belles paroles. Et il faut plutôt se poser la question, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est selon Dieu? Est-ce que c'est droit? Et là, nous voyons bien que ce que fait Absalom n'est pas juste ni droit. Donc les paroles, c'est une chose, mais nous, notre repère, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un petit peu comme le fil à plomb. Le fil à plomb, c'est ce qui va vous donner la droiture du mur. N'allez pas utiliser autre chose. Et donc, si vous utilisez le fil à plomb de la parole de Dieu dans chaque situation, vous allez voir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Absalom, donc, réussit à mettre David hors de Jérusalem par ses complots. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Pourtant, c'est bien David qui a été choisi par Dieu. Vous voyez, on peut être croyant, on est chrétien, on aime le Seigneur et on vit des situations injustes. On est mis dehors, on est rejeté. C'est Absalom qui triomphe et David qui doit fuir. On dirait que le mal l'emporte sur le bien, donc c'est très difficile à vivre. Et on le voit dans le monde aujourd'hui. Beaucoup de gens font le bien, souvent sont opprimés, oppressés, rejetés, persécutés. Et puis ceux qui font le mal, eh bien, eux, ils prospèrent. Et c'est extrêmement difficile pour David de traverser cette épreuve parce qu'il vit une injustice. Lui, il est fidèle à Dieu. Comment voulez-vous comprendre quand vous êtes fidèle à Dieu, que vous aimez Dieu, vous faites ce qui est bien, qu'on vous fait du mal à ce point-là et qu'on vous met dehors? Comment allez-vous réagir si, comme David, vous êtes fidèle à Dieu, vous faites ce qui est bien, ce qui est droit, mais qu'on vous met dehors quand même et qu'on vous exclut, ou que dans votre propre famille, il y a une révolte, ou qu'il y a des gens qui vous veulent du mal? Alors ça, c'est difficile à comprendre, mais on le voit dans la parole de Dieu, et nous ne devons pas nous laisser surprendre. Nous devons au contraire apprendre à rester fidèles à Dieu, comme David d'ailleurs, dans les bons moments, comme dans les moments difficiles. Parce que David ne s'est pas détourné de Dieu quand le vent a tourné, quand il a dû fuir, quand il s'est retrouvé dans les cavernes, quand il s'est retrouvé loin du palais. Il est resté fidèle à Dieu. Et ça, pour nous, c'est un exemple que nous devons rester fidèles à Dieu et le bénir et le louer en tout temps. David écrit, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » C'est facile à écrire, mais il l'a vécu aussi quand il était dans les situations défavorables. Alors, quand nous sommes dans l'épreuve, nous devons nous aussi nous rappeler que le mal ne triomphe pas toujours, que Dieu veille sur nous, que Dieu résiste aux orgueilleux, qu'il ne les bénit pas. Même si Absalom avait tout pour réussir, on voit que par son orgueil, il a tout perdu. Et sa chevelure qui faisait sa fierté, vous savez, elle s'est prise dans les térébintes et il a été accroché, suspendu aux térébintes. Et c'est comme ça que Joab en a profité pour le tuer avec 3 lances dans le cœur. D'ailleurs, la Bible précise que c'est dans le cœur qu'il a reçu ses lances, et c'est bien le cœur d'Absalom qui était orgueilleux. Vous voyez, l'origine de son péché était là, et finalement c'est par là qu'il est mort. Alors face à l'orgueil, la parole de Dieu nous donne un antidote qui est nécessaire à connaître et que nous devons exercer, c'est l'humilité. Philippiens chapitre 2, verset 3, c'est Paul qui dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. » Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Voilà l'antidote, voilà ce qui doit être dans notre cœur, frères et sœurs. L'orgueil, nous devons le chasser, le bannir, mais laisser l'humilité nous faire regarder les autres comme au-dessus de nous-mêmes. L'humilité, c'est vraiment le moyen de lutter contre l'orgueil, de chasser ses pensées vaines, et je pense qu'il faut y revenir constamment. Parce que les pensées d'orgueil, elles reviennent constamment et nous devons constamment nous entretenir de l'humilité et considérer les autres comme au-dessus de nous-mêmes. Nous devons aussi rester humbles dans les succès parce que le piège de l'orgueil, c'est que quand nous avons quelques succès, nous commençons à nous glorifier. Et c'est là un piège évident. Donc le succès ne doit pas nous rendre orgueilleux, mais de pouvoir rester humble aussi dans les succès. Ça, c'est la première chose, donc, sur laquelle nous devons être vigilants, c'est l'orgueil. Deuxième chose, dans 2 Samuel 18:5 maintenant, c'est la vengeance. Nous garder de la vengeance. 2 Samuel chapitre 18, le verset 5 dit ceci. Le roi, c'est donc David, donna cet ordre à Joab et à Abishai et à Ittaï. Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Et tout le peuple entendit l'ordre du roi et à tous les chefs au sujet d'Absalom. Donc, c'est toujours la même histoire. Absalom s'est révolté contre David. David aurait pu en vouloir à son fils et vouloir qu'il meure à cause de sa révolte. Mais on voit chez David cet esprit de pardon, de dire doucement avec cet Absalom qui s'est révolté, parce que David maintenant, il doit fuir, il est dans les cavernes, son propre fils veut le tuer. Mais David n'a pas entretenu un esprit de vengeance. Il n'a pas voulu régler ses comptes avec Absalom. Et il y a des moments dans la vie où on traverse des situations, on ne comprend plus rien. Peut-être c'est votre ami de confiance qui a révélé ce que vous lui avez confié, vous a trahi un secret, ou c'est votre enfant qui est fâché, qui est parti de la maison, qui ne donne plus de nouvelles, ou c'est votre patron qui a choisi un autre collaborateur et vous a mis de côté. Bref, les situations injustes de la vie, nous en traversons tous. Alors, il peut arriver dans notre cœur un esprit de vengeance, un désir de régler nos comptes, de nous venger nous-mêmes. Mais regardez l'attitude de David. Lorsque le vent a tourné, qu'il était en situation défavorable, il se rappelait que Dieu était toujours avec lui. C'est un petit peu difficile à comprendre, frères et sœurs, mais même quand nous sommes dans la difficulté, Dieu est avec nous quand même. Il ne nous abandonne pas. Alors évidemment, quand on voit la situation, on pourrait dire « Dieu nous a abandonnés », mais Dieu n'avait pas abandonné David. C'est pourquoi il nous faut voir plus loin, parce qu'en réalité, même si David était dans de grandes difficultés, il était toujours vainqueur parce qu'il était en communion avec Dieu. Tandis qu'Absalom, il n'avait pas Dieu dans sa vie. Et en fait, David n'avait pas besoin d'Absalom pour avancer. Mais Absalom, il avait besoin de David pour avancer dans les choses de Dieu. Mais Absalom a méprisé David. Donc, il en a eu son jugement. Il ne voulait pas de David, alors qu'il avait besoin de lui. David illustre bien la grâce de Dieu et le pardon. Parce qu'il aurait pu se venger lui-même, mais il dit à ses soldats, doucement, doucement, avec le jeune Absalom. C'est-à-dire, je lui pardonne le mal qu'il m'a fait, je veux tourner la page. David a su garder son cœur de la vengeance et il a rempli son cœur d'un esprit de pardon. Ça, c'est vraiment un exemple pour nous. Lévitique 19, 18 dit ceci, « Tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Tu ne te vengeras point. Vengeance n'est pas de Dieu. Et les gens qui avancent dans la vie spirituelle, ils ont dans le cœur un esprit de pardon. Si vous avez dans le cœur un désir de vengeance, c'est certain que spirituellement vous allez être bloqué et même vous allez reculer, voire vous égarer loin de Dieu. Joab, malheureusement, ne va pas écouter le conseil, enfin la décision de David de ce pardon, parce que Joab était animé d'un esprit de vengeance et il a tué Absalom, on l'a dit tout à l'heure, parce que la vengeance va communiquer en vous, en fait, la mort. Vous allez semer la mort à cause de la vengeance, mais vous allez appeler sur vous-même la mort. Parce que en faisant cela, en désobéissant délibérément à David, en ayant un cœur rempli d'un esprit de vengeance, il a appelé sur lui la mort, parce que quelque temps après, il est lui-même mort par l'épée. Et ces nombreux meurtres ont été la conséquence de sa propre mort. Donc l'antidote pour nous de la vengeance, c'est de laisser Dieu agir dans les situations. Romains chapitre 12, verset 19, c'est Paul qui dit ceci. « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, c'est-à-dire la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Voilà le croyant qui est sage, voilà le croyant qui a retiré de son cœur tout esprit de vengeance, ne vous vengez point vous-même, vous remettez la situation à Dieu qui est le juste juge, et c'est lui qui rendra ses comptes à chacun. Et c'est comme ça que dans notre cœur, nous devons plutôt développer un esprit de pardon, de reconnaissance à Dieu, de confiance en Dieu pour le laisser agir et prendre la situation en main. Troisième chose que nous devons veiller dans notre cœur, c'est maintenant l'amertume dans Genèse chapitre 4 et au verset 3. Genèse chapitre 4, verset 3, il s'agit de deux frères qui s'appelaient Caïn et Abel. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras là ton visage. » Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent contre toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Qu'est-ce que l'amertume ? L'amertume, la définition, c'est un sentiment de tristesse mêlé de rancœur lié à une humiliation, une déception ou une injustice du sort. Donc c'est la situation de Caïn. Caïn, en fait, a laissé l'amertume entrer dans son cœur. Caïn signifie en français acquisition, artisan, forgeron. C'est l'image de l'homme terrestre attaché aux choses de la terre, aux biens matériels. Abel signifie souffle, vapeur, ce qui monte. Il est l'image de l'homme spirituel attaché aux choses d'en haut. Ils apportent chacun une offrande à Dieu, et ça c'est bien, mais l'un va apporter les fruits de son propre travail, les fruits de la terre, le cultivateur, pour gagner la faveur de Dieu par ses œuvres. C'est l'image de la religion qui veut chercher à gagner Dieu. Mais l'autre met en avant le sacrifice d'un animal innocent. Donc il a offert les premiers-nés du troupeau, c'est-à-dire un agneau sacrifié. Et nous savons que l'agneau sacrifié, c'est une préfiguration de Jésus-Christ qui s'est offert en sacrifice pour les péchés. Donc Abel, spirituellement, a ressenti la direction dans laquelle il fallait aller pour apporter des sacrifices. Ce n'était pas des fruits de la terre, ce n'était pas les œuvres, mais c'était la grâce avec l'agneau sacrifié. L'offrande de Caïn n'est pas approuvée par Dieu, contrairement à celle d'Abel. Alors, il aurait pu se demander, mais pourquoi est-ce que Dieu approuve tellement l'offrande d'Abel et pas la mienne ? Vous voyez, quand on a un échec, le mieux, c'est de se poser des questions et de prier et de chercher la face de Dieu. Et certainement qu'il aurait compris, il aurait trouvé, mais ce qui plaît à Dieu, c'est des sacrifices d'animaux. Il aurait compris, s'il avait cherché sincèrement. Mais au lieu de cela, il a laissé l'amertume et la jalousie, la rancœur gagner son cœur, alors que Dieu avait encore un plan pour relever sa tête, vous voyez. Dieu lui dit, certainement, au verset 7, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. C'est-à-dire que pour Caïn, il y avait quand même une possibilité de s'en sortir et de relever la tête et de changer d'attitude. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. On est toujours avec deux chemins possibles. Soit on choisit le bien, soit on choisit le mal. Il avait encore la possibilité de choisir le bien, de demander pardon à Dieu, de chercher le sacrifice qui plaît à Dieu. Il serait tombé sur l'agneau, mais il a choisi l'amertume et il a voulu régler ses comptes avec son frère. Donc c'est le mauvais choix. Dieu avait encore un plan pour relever sa tête, il n'en a pas voulu. Quand l'amertume rentre dans notre cœur, voyez, on fait les mauvais choix. On prend les mauvaises directions, on prend les mauvaises fréquentations. L'amertume vous détruit. Pardon. L'amertume vous détruira comme elle a détruit Caïn. Il n'aime plus son frère, il n'aime plus Dieu. Il laisse les mauvaises pensées remplir son cœur. Et finalement, nous sommes responsables de toutes les racines de pensée que nous laissons rentrer dans notre cœur. Parce que les pensées, c'est comme des petites semences. Vous voyez, il y a des semences qui vont faire des dégâts. Par exemple, un gland, quand vous le semez en terre, au bout d'un temps, ça va faire un chêne très puissant. Mais au début, ça n'est qu'une petite plante, ce n'est qu'une petite pousse, vous pouvez l'arracher. Mais si vous laissez cette pensée ou cette graine se développer, après, pour déraciner un chêne, c'est énorme. Les pensées que nous ne traitons pas, elles vont prendre racine et elles vont devenir puissantes dans notre esprit. Et ça va être compliqué, comme pour Caïn. L'amertume l'a totalement détruit de l'intérieur. Caïn a semé la mort par son amertume. Ça sera pareil pour nous. Les conséquences de l'amertume, c'est que vous allez semer la mort autour de vous. Et Caïn a été contraint d'errer toute sa vie loin de la face de l'Éternel à cause de son péché. Si vous tombez dans l'amertume, non seulement vous allez vous infecter vous-même, mais vous allez infecter les autres autour de vous et vous allez semer la mort et la stérilité spirituelle. Hébreux chapitre 12, verset 15, c'est un avertissement de l'auteur aux Hébreux qui dit ceci: « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » On voit bien le problème de l'amertume, non seulement qui va avoir des racines puissantes dans le cœur, qui va se développer dans la personne, mais qui va en infecter plusieurs encore autour de lui. C'est pourquoi il faut rejeter cette amertume de notre cœur, garder notre cœur de l'amertume. Et l'antidote à l'amertume, eh bien, c'est le pardon dans Colossiens 3:13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Voilà quelqu'un qui a vaincu l'amertume parce qu'il a son cœur rempli d'un esprit de pardon. Se pardonner réciproquement, c'est comme ça qu'on va s'aimer les uns les autres. On n'a pas laissé l'amertume, la rancœur gagner notre cœur. Et un dernier exemple de ce dont nous devons veiller dans notre cœur, c'est dans Nombre chapitre 12 et le verset 1. C'est la jalousie. Nombre chapitre 12, versets 1 à 3. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent : Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle ? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ? Et l'Éternel entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Aaron et Marie étaient le frère et la sœur de Moïse. On sait que quand Moïse est né, Marie, donc sa sœur, a tout fait pour le protéger, suivre l'embarcation en roseau qui avait été placée sur le Nil. Et lorsque cette embarcation où était Moïse est arrivée jusqu'à la fille de Pharaon qui se baignait, la fille a surgi pour proposer quelqu'un pour allaiter cet enfant, et c'était donc la mère de Moïse qui a pu l'allaiter. Donc Marie était là pour son frère, et on sait qu'elle a été un soutien pour son frère et qu'elle lui a permis d'avoir cet avantage d'être élevé dans sa propre famille. Aaron aussi était le porte-parole de Moïse. Vous savez que Moïse avait un problème pour parler. Il le dit à Dieu qu'il avait la bouche et la langue embarrassées, il n'était pas à l'aise, et Dieu lui a envoyé Aaron, et Aaron était en quelque sorte le porte-parole de Moïse. Quand Aaron parlait, en fait, il transmettait les paroles de Moïse au peuple. Donc, il était vraiment aussi en responsabilité avec Moïse. Donc, tous les deux, ils étaient là, ils savaient que Moïse avait été choisi par Dieu pour conduire le peuple, mais voyez, c'était des responsables. Et pourtant, l'orgueil, la pensée de jalousie est venue dans leur cœur en disant « Mais pourquoi Moïse ? Pourquoi Dieu parlerait toujours par Moïse ? Pourquoi pas par nous ?» Il parle aussi par nous. Donc, ils contestaient le choix de Dieu. C'est vrai que des fois, on est étonné du choix de Dieu. Pourquoi il choisit l'un et pas l'autre ? Pourquoi Dieu a appelé Moïse et pas plus un autre dans le peuple, un tel ou un tel ? Bon, eh bien, il faut simplement accepter les choix que Dieu fait. et se soumettre à la volonté de Dieu. C'est vrai que Moïse avait 80 ans quand même, quand il a été appelé à... On pourrait dire qu'il était un peu trop âgé pour faire cette œuvre, mais non, Dieu l'avait choisi à 80 ans. C'est un homme qui avait du mal à s'exprimer, c'est un homme qui s'emportait aussi, on l'a vu avec le rocher, quand Dieu lui a dit tu parles au rocher, Moïse s'est énervé, il a pris un bâton, il a tapé sur le rocher, il a traité le peuple de rebelle, il s'est emporté, mais il aimait Dieu, et en fait, simplement, il fallait reconnaître que c'était lui, Moïse, qui était le conducteur du peuple. Mais la jalousie est entrée dans le cœur d'Aaron et Marie. Pourtant, Aaron et Marie n'étaient pas n'importe qui, c'était des responsables avec Moïse. C'est-à-dire qu'Aaron, c'était le souverain sacrificateur en place, donc quand même quelqu'un d'éminemment important, et Marie était prophétesse. Dieu les avait même chargés, tous les trois, de conduire le peuple, donc tous les deux avec Moïse, c'est dans Michée chapitre 6, verset 4, pour vous montrer qu'ils étaient à un statut de responsable. Mais même dans le cœur d'un responsable, vous voyez, ils aimaient Dieu, ils étaient proches du Seigneur, eh bien la jalousie a trouvé le chemin pour entrer dans leur cœur. C'est pourquoi nous devons veiller constamment, comme la Bible dit, « garde ton cœur plus que toute autre chose ». La jalousie s'est infiltrée dans leur cœur. Et ils ont commencé à être jaloux de Moïse. Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Est-ce qu'il ne parle pas aussi par nous? Comment est-ce qu'ils sont devenus jaloux? Eh bien, la jalousie vient quand on se compare aux autres. Et c'est là tout le problème. Parce que nous ne devrions pas nous comparer aux autres. On ne doit pas se comparer aux autres parce que chacun a reçu des qualités différentes. Alors vous serez toujours jaloux de quelque chose chez quelqu'un. Mais vous avez des qualités qu'il n'a pas. Il faut plutôt identifier les dons que Dieu nous a donnés, les qualités que Dieu nous a données, et les mettre au service de Dieu. Mais vous ne pourrez pas tout faire, mais vous pourrez faire ce que Dieu vous a confié. Et vous ne devez pas envier les autres dons, parce que vous n'avez pas reçu ces dons-là, mais vous en avez reçu d'autres. Voyez, la Bible dit que l'Éternel entendit les discours. Ça nous montre aussi que Dieu entend toutes nos paroles, que nous parlons à tort et à travers, sauf que Dieu les a consignées dans son registre, et ça ne lui a pas plu. Et donc, il a envoyé une lèpre sur Marie. Elle a été frappée de lèpre, et celui-là même dont elle était jaloux, c'est lui, Moïse, qui a prié pour elle, pour qu'elle soit guérie de cette lèpre. On voit quand même chez Moïse aussi qu'il avait le pardon dans son cœur, qu'il a pardonné cet écart, et qu'il a tourné la page. Mais Dieu nous teste, si Dieu a choisi, par exemple, une autre personne et qu'il a béni, et que pour l'instant, dans votre vie, les choses n'avancent pas vite, comment allez-vous réagir? Est-ce que vous allez être jaloux? Est-ce que vous allez juger Dieu en disant « mais pourquoi lui et pas moi ?» Ou est-ce que vous allez louer le Seigneur pour les bénédictions qu'il fait à travers cette personne? Vous voyez, cette attitude, elle est très importante aux yeux de Dieu. Ça ne paraît pas grand-chose. Mais en fait, quand vous louez Dieu pour les bénédictions que Dieu donne dans la vie d'un autre, vous vous placez sur le chemin de la bénédiction. Tandis que quand vous êtes jaloux, quand vous dites « Dieu, pourquoi lui et pas moi ?», vous vous placez sur un mauvais chemin. C'est le chemin de Marie et Aaron à ce moment-là, ils ont été jaloux et la lèpre est venue sur eux. Enfin, sur elle surtout, sur Marie. Donc, si Dieu a choisi une autre personne, ne soyez pas envieux, mais bénissez le Seigneur pour les dons et les grâces qu'il a faite, parce que d'autres portes s'ouvriront pour vous. Dieu a aussi son chemin pour vous. Dieu a le temps aussi pour vous. Moïse a payé le prix de l'obéissance. Rappelez-vous ceci, c'est que Moïse a payé un prix fort. Il a été choisi par Dieu, mais il a beaucoup souffert. Il a été beaucoup contesté par le peuple. Il a été beaucoup rejeté. Alors ne soyons pas jaloux de la place des autres, parce que nous ne pourrions pas porter le fardeau qu'ils portent à ce moment-là. Parce que c'est Dieu qui leur a donné cette qualification pour le faire. Mais Dieu nous a donné, nous, une autre qualification pour faire autre chose. Et tous ne peuvent pas porter le même fardeau. Dieu n'oublie personne. Il met en réserve des bénédictions pour chacun. Si vous apprenez à louer Dieu pour les bénédictions pour les autres, vous trouverez vos propres bénédictions. Apprenons à louer le Seigneur pour les bénédictions de chacun. L'antidote à la jalousie. Faisons du bien autour de nous. Romains chapitre 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Quand nous choisissons, la deuxième partie du verset, quand nous choisissons le bien, quand nous choisissons d'honorer, de bénir, de célébrer les victoires des autres, eh bien, nous choisissons le bon chemin et cela plaît à Dieu. Et là, il ouvre les portes pour ses enfants. Rappelons-nous toujours ceci. En conclusion, notre cœur, c'est vraiment comme un jardin. Un jardin que nous devons entretenir. Garde ton cœur, veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Veille sur ton cœur pour ne pas laisser l'amertume, pour ne pas laisser la rancœur, la jalousie, pour ne pas laisser l'orgueil venir avec ses pensées, conduire dans des mauvais chemins. Ça nécessite un effort. Ça nécessite de veiller tous les jours. Parce que tous les jours, j'aimerais vous dire que l'ennemi, il sème aussi ses mauvaises semences. Et tous les jours, il va revenir avec de l'orgueil. Tous les jours, il va revenir avec de la jalousie, avec des mauvaises pensées, avec toutes sortes de péchés infiltrés qu'il veut nous pousser dans ces directions-là. C'est pourquoi nous devons revenir toujours à la parole de Dieu, la méditer dans notre cœur, la laisser remplir notre cœur afin de nettoyer notre cœur de ses pensées vaines, de ses sentiments mauvais. Et ainsi, quand vous lisez la parole de Dieu tous les jours, quand vous la méditez, petite précision parce qu'on m'a posé la question dans un entretien. Je lui dis, est-ce que tu lis la Bible ? Non, je n'ai pas le temps, je ne lis pas beaucoup la Bible. Mais par contre, il me dit, j'écoute des sermons, j'écoute des messages en ligne. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est ça la nourriture de votre âme. Les sermons, c'est un complément de nourriture. C'est un complément. Si vous n'avez pas la nourriture de base, vous allez être desséché spirituellement. Donc, les sermons, c'est très bien, oui, on peut en écouter, mais la priorité, c'est quand même la lecture directe de la parole de Dieu. Parce que si vous vous contentez d'écouter la parole de Dieu par les sermons, ce n'est pas suffisant. Je dirais, ça vient en deuxième, ça vient en appoint. Mais le premier, c'est vraiment lire la Bible, lire... C'est ça qui va laver votre cœur pour qu'il y ait ce cœur pur. C'est la parole de Dieu, qu'elle pénètre vraiment dans notre cœur chaque jour pour contrecarrer toutes les semences du malin. Alors, quand nous avons péché, nous devons demander pardon à Dieu et prier comme David au psaume 51, verset 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Que Dieu nous aide à garder notre cœur pur pour lui. On va prier quelques instants. Merci pour ta parole, merci pour ces conseils. Nous voulons encore, Seigneur, une fois de plus, veiller sur notre cœur et ne pas laisser toutes les semences du malin encore germer et au contraire les arracher, les enlever de notre esprit et y mettre ta bonne parole, y mettre, Seigneur, ta pensée afin que notre cœur soit gardé selon ta loi, selon ta volonté, selon tes désirs. Merci de bénir mon frère, ma sœur, dans les combats, les luttes de chaque jour, Seigneur. Oui, même lorsque, comme David, nous vivons tout le contraire de la parole de Dieu, que nous sommes rejetés, chassés, nous voulons nous rappeler que tu es toujours avec tes enfants et que tu prépares un autre chemin et que tu as un chemin de bénédiction et de grâce. Nous voulons aussi bénir les autres pour les succès et les bénédictions qu'ils ont, pour les dons et les talents que tu as donnés à chacun. Nous ne voulons pas nourrir de l'envie, de la jalousie, mais au contraire avoir un esprit reconnaissant, un esprit de foi, un esprit tourné vers toi dans l'adoration. Merci d'encourager chacun et que cette parole produise du fruit dans chacun de nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.